15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis.
De pauvres gars qui se battent entre eux juste parce que leur direction, la même boîte, a fait de la merde. Putain.
Oui, bonjour. Voilà, je m'appelle Stéphane. Je voulais revenir sur une info que j'ai entendue ce matin hein, concernant les ouvriers de l'usine GAD de Lampol qui va fermer. Ils sont retrouvés à Josselin, à l'usine. Elle va rester, quoi. Ça m'embête vraiment beaucoup parce que c'est vrai que les images sont vraiment choquantes et ce qui va être retenu, justement, c'est ces images, quoi, des ouvriers bretons qui se tapent les uns sur les autres. C'est vraiment minable. Et ce qui m'embête d'autant plus, c'est que pendant ce temps-là, ça, la direction, on l'entend pas, elle a pas besoin parce que elle reste tranquille, quoi. Ça va rien, eux, ils se divisent, quoi, et c'est assez affreux, quoi. C'est des collègues qui habitent à une centaine de bornes les uns les autres et c'est vrai qu'un peu de solidarité, ça aurait eu un peu de gueule, quoi. Ça aurait eu de la classe. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi, j'ai mal à la Bretagne. En tout cas, merci pour vos émissions et puis Kinabo.
Ah, la Bretagne, terre de mystère. Qui d'entre nous n'a pas été passer des vacances étant gamin en Bretagne? Qui n'a pas regardé les chalutiers rentrer au port en attendant de voir ce qu'il y avait dans les cartons? Une pieuvre, un requin, que sais-je encore, enfin mille trésors. Grâce à leurs élevages intensifs de porcs, les Bretons ont pourri à vie leur région formidable, jusqu'à 3 ou 4 mètres de profondeur. C'est-à-dire que bah, plus aucun Breton ne peut boire de l'eau du robinet. Enfin, c'est tellement rentré dans les mœurs maintenant que, bon, voilà, cristalline fait fortune. Maintenant, c'est au tour de la volaille. Il n'y a plus de boulot. Des milliers d'éleveurs de volailles, machin, etc. Enfin bon, bref, c'est le même topo que pour les porcs, hein. Quand on sait comment c'est élevé les bestioles, de toute façon, ça donne plus envie. Blatique, maintenant, ils vont tous se retrouver au chaume du, et ça, je ne souhaite à personne. Mais là où c'est extraordinaire, les patrons en ont rêvé, les ouvriers l'ont fait, c'est que maintenant, les usines qui ont la chance de garder leur boulot se foutent sur la gueule avec ceux qui ont perdu leur boulot. Et c'est, camarades, relève la tête. Je peux te dire que les lendemains qui chantent, et le grand soir, on n'est pas prêt d'y parvenir, tu vois. Si on voyait qu'un jour, les Bretons se foutraient sur la gueule entre eux, entre ouvriers, c'est pas extraordinaire, ça. Putain, quel département de merde.
Merci vraiment, monsieur Mermet, pour ce numéro spécial sucre. Les pauvres responsables que nous entendons justifier la semaine du goût m'apparaissent rompus et donc vraiment pitoyables de voir obéir littéralement aux ordres du lobby sucrier. Face aux lâchetés qui s'additionnent, politique, politicienne, s'entend, et qui nous sacrifient, il n'y a aucune autre solution que de boycotter systématiquement la consommation meurtrière. Ce qui serait quand même responsable, et je vous demanderais de dénoncer les alternatives pour tous les parents qui vous écoutent et tous les citoyens qui, effectivement, n'arrêtent pas de prendre du poids et de tomber malade. Voilà, merci beaucoup.
C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas, ni sur France Télévisions, ni sur Radio France, un seul grand magazine consacré à la consommation, à un horaire de grande écoute, à la consommation en général, et évidemment, à l'un des aspects les plus intéressants et les plus importants de la consommation, à savoir l'alimentation. Vous allez me dire, ouais, mais si France Télé fait ça, par exemple, tous les lobbies de l'agroalimentaire va leur couper toutes les pubs sur l'alimentation, ce qui fait un gros paquet de pognon. Certes, mais reste à savoir combien coûte à l'assurance sociale les différentes maladies liées à la mauvaise alimentation, cancer, maladies cardio-vasculaires, etc., etc. Je suis bien sûr que c'est de très loin supérieur au chiffre d'affaires que fait France Télévisions avec les pubs sur l'agroalimentaire.
Voilà, merci pour tous ces messages. Chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, auditrices modestes et géniales, merci pour tous ces messages. Aujourd'hui, on change de monde, on va dans le souterrain, on va dans les coulisses, on va dans les brèches, on va dans les interstices de l'histoire et de la ville du côté des bandes et des gangs. C'est une vieille, vieille histoire que celle des bandes et des gangs dans les villes. Très, très vieille histoire, sans remonter très loin. On se souvient des Apaches avec leurs surins, on se souvient des blousons noirs avec leurs bananes et des loubards de la zone et de tout. Les intermittents des maisons d'arrêt, c'est une vieille histoire que celle-ci, toujours sur fond de misère sociale, de chômage, de relégation, une vieille histoire en lien avec l'histoire, aujourd'hui avec l'histoire de la colonisation, avec des bouts de mémoire et des bouts de miroir venus de l'histoire noire, des Black Panthers, par exemple, ou de Malcolm X. Bref, des mythes et des légendes, des valeurs, des bravoures, des liens de guerre et de sang. Et on va le voir, tout ça, aujourd'hui, au cœur, au pied des tours de la Défense à Paris, qui représentent vraiment, alors là, les cathédrales modernes du capitalisme, du néolibéralisme de notre époque. Et là, dans ces interstices, dans ces brèches, dans ces souterrains, il y a cet autre monde qui est celui des gangs. Y a-t-il encore ces gangs? C'est ce qui a intéressé Charlotte Perry à travers cette rencontre avec un gars, vous allez découvrir, peut-être pour beaucoup d'entre vous, qui s'appelle Joe Dalton, cœur de gang. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut à tous. Quand un dictateur passé ou présent veut arriver en Europe, il n'y a aucun problème. Il rentre dans n'importe quel pays des 27 de la communauté européenne. Quand c'est un pauvre qui arrive, il n'y a aucun problème non plus, il est refoulé. Comme quoi, le critère de base, c'est l'argent. Pour la santé, c'est pareil. Dans ton émission, tu parles du sucre. Les industriels du sucre, ils sont dans les conseils d'administration des industriels du médicament, et réciproquement, et très régulièrement, ils travaillent dans les cabinets ministériels, notamment en charge de la santé. Alors, comme vendredi soir, il y a le repère, et qu'au cinéma de Montauroux, à 20h30, il y a un film sur la santé publique en danger, on a décidé de décaler de quelques heures le repère, et donc d'assister au film et de participer à ce débat qui aura lieu vendredi soir à Montauroux dans le cadre du repère de Tourette. Et puis, pour ceux qui ont un petit peu de curiosité et qui ont envie de se mettre du baume au cœur, allez voir sur Internet un film qui s'appelle « Ne vivons plus comme des esclaves ». Ciao, vive, portez-vous bien.
Ouais, salut Daniel, salut l'équipe et salut tous les AMG. Triste anniversaire des 30 ans de détention de Georges Ibrahim Abdallah, combattant résistant communiste libanais, incarcéré arbitrairement par l'État français depuis 1983 et libérable depuis 10 ans. Venez nombreux à la manifestation de soutien qui aura lieu ce samedi 26 à 14h à Lannemezan, Haute-Pyrénées. Rendez-vous à la gare. Pensons à lui, c'est Claude de Bayonne. Ciao.
Bonjour, c'est Paul Ariès du mensuel Les Indignés, ex Le Sarcophage. Ce samedi 26 aura lieu le 3e Forum National de la Désobéissance de 9h à 23h. En rendez-vous pour tous ceux qui ne croient plus au lendemain qui chante, parce qu'ils veulent chanter au présent, parce que la planète est déjà bien assez riche pour permettre à 7 et bientôt 8 milliards d'humains de vivre bien. À samedi donc, pour le 3e Forum National de la Désobéissance, à Grigny, à côté de Lyon.
Automne. Lorsque l'automne vient, mon âme cafardeuse recherche, mais en vain, une raison d'être heureuse. Salut.
Moi, j'ai peur de personne. De personne. J'ai eu des coups de couteau, on m'a tiré tout trois fois. J'ai eu des bras cassés, coups de batte de baseball. C'est la vie. On sait qu'on a un passé et qu'on peut ne pas se voir. On veille les uns sur les autres quand même.
Toujours aujourd'hui.
Toujours pour la vie. On a pleuré ensemble, on a saigné ensemble, on a que ça. C'est une autre identité, ça. C'est comme si on dit aujourd'hui les anciens combattants, est-ce qu'ils sont plus ensemble? Ils sont ensemble. Même s'ils se fréquentent pas, ils sont ensemble. Donc on est Black Dragon, c'est pour la vie.
Salut, c'est Daniel Mermès, et là-bas, si j'y suis, avec Charlotte Perry, Joe Dalton, cœur de gang, Black Dragon, pour la vie.
Il y a du monde, là, puis ça doit être 17h, c'est la sortie du travail.
On voit la France d'en bas qui bouge. Ça marche dans tous les sens, ça va partout. C'est incroyable. Ça fait des années que j'ai pas vécu cette ambiance-là. En fait.
Mais ici, il y en avait des affrontements à la Défense?
Beaucoup d'affrontements à la Défense. Beaucoup. Beaucoup des frères qui ont subi des dommages collatéraux ici. On a même eu un frère dans les années 2000, un ancien Black Dragon qu'on a retrouvé mort ici. Donc il y a eu des affrontements terribles ici, beaucoup, beaucoup. C'était des lieux d'attaque aussi, de défense aussi. La défense, ça défonçait.
Comment vous vous appelez?
Mon nom de famille, c'est Maradas Nado Jérémy. La rue m'a baptisé Joe Dalton parce que j'étais le plus petit de taille et je menais des géants. Donc les ennemis, ils ont estimé que comme ils voyaient les géants, ils étaient à mes ordres et que je les menais, ils ont dit « Ah ouais, lui, c'est Joe Dalton. » Un personnage récalcitrant qui lâche pas l'affaire, qui est toujours en train de lutter, qui veut combattre, qui veut tout arracher. Une espèce de sauvage, primitif. Voilà Joe Dalton. Ça date des années 80. 85, 86, 87. Le début des gangs dans la rue. Mais avant même d'intégrer les Black Dragons, j'avais déjà mon crew, j'avais déjà mon groupe. Et on faisait déjà nos activités underground dans la rue. Et de là, on m'a surnommé Joe Dalton, un meneur d'hommes. J'étais un meneur d'hommes. J'arrivais à mobiliser beaucoup de jeunes pour être activistes.
Le parvis de la Défense, c'est un peu le territoire des BD.
C'est le territoire des BD.
Le parvis de la Défense est le territoire des BD.
La Défense.
Toute la Défense.
Ouais.
TF1, 9 août 1990.
La Défense n'est pas le Bronx, mais son parvis est le terrain de retrouvailles, voire champ de bataille des Black Dragons et de leurs alliés. Les Black Dragons, les BD, seraient une des deux grosses bandes de Paris et sa banlieue. Son fonctionnement est mal identifié. Imprévisible, les membres et sympathisants se regroupent tout d'un coup, font une descente, et puis plus rien.
Je suis né en Centrafrique, République centrafricaine. Je suis un 68ard, je suis né en 68. Donc tu vois, en pleine révolution un peu dans le monde. Je suis né révolté déjà. Mon père, il a été sénateur français, il a travaillé pour la 5ème République. Il a fait la campagne du référendum de la 5ème République. Il présidait le groupe Finance et Progrès. Donc il a fait le tour du monde pour enfouir la caisse de la France au niveau économique. Donc il a parcouru toute l'Afrique et l'Asie et tout ça. Après, il fut panafricain avec tous les hommes de lumière qui ont voulu l'Union africaine, comme Boganda, qui est le père fondateur de la République centrafricaine. Ils ont travaillé ensemble sur l'indépendance de la Centrafrique. Il a été ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, président en intérim. Mon père, c'est un grand monsieur en Centrafrique et pour la France aussi. Il a beaucoup travaillé, œuvré pour la France.
Vous, vous êtes arrivé en France quand?
Je suis arrivé en France en 80-81. J'avais 11 ans. Mes parents, ma famille a subi des exactions de l'empereur Bokassa, un barbousse français. Comme nous, on était dans sa ligne de mire directe, ma famille était très, très influente dans la politique centrafricaine. Ils n'ont pas trop accepté sa prise de pouvoir. Donc, il y a une partie qui sont opposés à lui. Ils ont tenté un coup d'État qui a échoué. Et du coup, ils s'en est vraiment pris à ma famille. J'ai perdu beaucoup d'hommes de ma famille. Donc, moi, je suis né dans ces conditions-là et j'ai été révolté. J'avais un esprit de vendetta dans mon esprit. Donc j'ai grandi avec cet esprit-là parce que j'ai vécu la douleur de mes parents, de ma mère surtout. Et donc dans mon adolescence, début d'adolescence, mes parents ils ont estimé que si je restais en Centrafrique, peut-être qu'ils allaient me perdre comme ils ont perdu mes grands frères. D'où le fait qu'on m'a envoyé en France, quoi. On m'a isolé un peu de mon clan.
Mieux vaut un jour de lion qu'un siècle de mouton. Mourir jeune et faire un beau cadavre, vivre à fond la caisse. Voilà quelques clichés, quelques idées, peut-être idées, qui sont celles qu'on retrouve et qui parcourent le folklore, les légendes. Les gangs, depuis fort longtemps, on le disait en commençant. folklore, violence. Ce qu'on va évoquer là a débouché parfois sur le crime, parfois sur la prison, souvent sur la débandade. Il y a paumé, errant, quelques-uns, dont Joe Dalton s'en est sorti grâce, il va nous l'expliquer, à quoi, au sport. Qui sont ces gens-là, uniquement préoccupés par les tribus, par l'honneur, par les valeurs, par la violence? Pas toujours. Il y a très très souvent dans leur démarche quelque chose qui les a fait appeler les primitifs de la révolte, par certains historiens comme Eric Hobsbawm par exemple. Et on aurait tort de ne pas prendre en compte dans l'histoire tout court, dans l'histoire sociale, l'existence de ces gangs et de ces bandes tout autour de nous, ici, à Paris et ailleurs. Même s'ils s'inspirent du folklore et des légendes et des mythes et des gangs américains, il y a quelque chose qui s'est passé là et qui se passe toujours là, par derrière, en secret, underground, mais avec des signes quand même qui sont lancés à l'ensemble, au reste de l'humanité que nous sommes. Que disent-ils? Que veulent-ils? Que font-ils? Est-ce que leur existence doit se limiter à faire peur, faire rêver les adolescents, être ces rebelles sans cause, sans pause, qui inspirent de si belles chansons, de si belles musiques? Ou bien y a-t-il autre chose qui est dit là, quelque chose qui ne peut pas sortir ailleurs, qui ne peut pas s'exprimer ailleurs, qui ne trouve pas son issue autrement que sous cette forme du gang? C'est jusqu'à 16h ou presque, c'est là-bas ce qui suit.
Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!
Yes! The rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound, I made a year ago. I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body should be partying too. Pass the power on the hour from the rebel to you.
Hey, yo, Chuck, man, I love it.
Radio, suckers never play me. All the mix, they just okay me now. Knowing it grown, when the clock in my throne is known, sneaking and taking everything that a brother owns.
Hard,
my calling card, recorded and ordered. Supporter of Chess and Mart, loud and proud, kicking live. Next poet supreme, loop for truth, bazooka the scheme.
Flavor,
a rebel in his own mind. Supporter of my rhyme, designed to scatter a line of suckers who claim I do crime.
Alors ici, on est à la Défense, on est en dessous de l'esplanade.
Oui, on est en dessous de l'esplanade de la Défense, ouais. Déjà, la Défense, ça a été un territoire qu'on a conquis. La Défense était déjà occupée par des services d'ordre racistes. Les vigiles étaient des racistes. Et donc, il a fallu qu'on se confronte à ces gens-là, qu'on prenne le dessus pour que les choses y changent, quoi, pour que la couleur du paysage change. Il a fallu qu'on s'impose dans ce paysage-là.
Donc là, la Défense est devenue le fief des Black Dragons.
Les Black Dragons, c'est un groupe paramilitaire. Parce que les bases et les bases fondamentales pour intégrer les Black Dragons, c'est les arts martiaux. Donc c'est la maîtrise de son corps et de son esprit et l'engagement dans le combat. Yves Levent, le fondateur, il est né à Haïti. Il a grandi à Miami. Son père, il faisait partie des Black Dragons, chef des Black Dragons à Miami. C'est des groupes affiliés aux Black Panthers. Donc on connaît tous l'histoire des Black Panthers américains. Ils avaient les mêmes codes, sauf que les codes des Black Dragons, c'était spécialement dans les arts martiaux. Alors, Yves, il a atterri en France. Il a découvert le phénomène skinhead, rebelle, raciste. Donc pour lui, c'était une reproduction du Ku Klux Klan. Donc, en tant qu'héritier de ce modèle d'autodéfense, de droit civique et tout ça, eh ben, il a fondé son groupe en France. Donc on a évolué dans la rue, tous ceux qui ont intégré les Black Dragons, avec les codes black américains, afro-américains, des combattants de droit civique. C'était une constitution, les Black Dragons. Il y avait une hiérarchie. Il y avait le père fondateur, il y avait les généraux, il y avait les ministres de guerre, il y avait les gens qui étaient là pour la médiation. Il y a des Black Dragons jusqu'à aujourd'hui, qui eux, c'est des commandos. Ils ne savent rien faire d'autre que de venir, on appelle ça, nettoyer et puis repartir.
Aujourd'hui encore, il y a des commandos de Black Dragons.
Ben, on est Black Dragons, on est pour la vie. On sait qu'on a un passé et que même si on peut ne pas se voir, on veille les uns sur les autres quand même.
Toujours aujourd'hui.
Toujours pour la vie. On a marché ensemble dans la rue pendant une dizaine d'années. On a pleuré ensemble, on a saigné ensemble, on a que ça. C'est notre identité, ça. C'est comme si on dit aujourd'hui les anciens combattants, est-ce qu'ils sont plus ensemble? Ils sont ensemble. Même s'ils ne se fréquentent pas, ils sont ensemble. Donc on est Black Dragon, c'est pour la vie.
Vous êtes rentré quand dans les Black Dragons?
Je suis rentré en années 85-86. Ça s'est passé à Croix-de-Chaveau. À Croix-de-Chaveau, il y avait un parc à Montreuil. C'est là-bas qu'il y avait les tests pour intégrer les Black Dragons.
Il y avait des tests pour intégrer?
Oui, il y avait des tests. Des tests de combat. Plusieurs personnes vous tombaient dessus et vous bastonnaient et vous essayez de vous défendre. C'est une mise à l'épreuve pour évaluer un peu votre capacité et votre qualité. Un Black Dragon doit être courageux, téméraire, il ne doit pas reculer. C'est le cœur de lion, c'est-à-dire être capable de combattre l'injustice jusqu'au bout, jusqu'à la mort, au prix de ta vie. Tu vois. Il y a une remise en question aussi en soi, de son niveau, qui fait qu'après, on cherche à améliorer notre technique de combat. Donc après, il y a une formation qui se suit. On avait un livret de code d'honneur et de moralité. Il fallait le connaître par cœur.
Qu'est-ce qu'il disait par exemple ce livret?
Un Black Dragon doit être propre. Ne boit pas, ne fume pas. Il doit être contre l'injustice. Mutiler avant d'être mutilé. Tuer avant d'être tué. Et avec le B du Black Dragon, le L du Black Dragon, jusqu'au au N de Dragon. Donc chaque lettre signifiait quelque chose.
Et du coup, alors vous êtes rentré pourquoi dans les Black Dragons? Vous faisiez partie d'une autre bande avant ou...
Moi, j'ai commencé mon combat contre les racistes bien avant. J'ai découvert ça dans le 15e arrondissement parce que j'avais une sœur qui logeait dans une chambre de bonne. Et donc, je me suis retrouvé là et puis à l'école d'éducation prioritaire à Paris. Les sœurs, elles étaient des étudiantes. Et elles parlaient déjà des groupes de racistes qui descendaient dans les universités et qui fracassaient tout. Et elle te disait, sors pas dans la rue, c'est dangereux. Ils vont te faire un truc, les gens sont mauvais, ils sont racistes ici. Toi, t'es là, enclavé, tu regardes par la fenêtre toute la journée. Parce qu'elle n'est pas là pour te sortir ou pour te surveiller. Ils sont pas là, les grands, donc tu oses pas sortir, aller même acheter le pain. Mais moi, ça a pas marché en Afrique. Ça ne pourrait pas marcher ici. Donc moi, je sors. S'il faut sauter par la fenêtre, je sors. Et j'emmerde celui qui dira que t'as pas à traîner ici, mon gamin. Tu vois? Et ben voilà, les skinheads, ils ont empêché les gens de s'émanciper. Nous, on a été leur expliquer qu'on va s'émanciper. Ça va, tranquille.
C'est ça. Quelqu'un vous a reconnu?
Ouais, voilà. Donc, pour moi, ça a été comme ça que j'ai intégré les bandes. J'ai été initié dans la rue par les Asnais. Donc, j'ai commencé à traîner ma veste avec les Asnais. Ils m'ont pris sous leur aile avec mon équipe. Donc c'est eux qui nous ont expliqué les rudiments de la rue. On a assisté aussi à des combats des anciens Asnais.
Les Asnais, c'était quoi?
C'était un groupe plus ancien de bandes. Il y avait les Black Panthers français, il y avait les Asnais, il y avait les Black Power. C'était les groupes des gens qui étaient plus âgés, qui étaient d'une génération de rockers. Donc ils se battaient contre les Hells Angels, les Bikers, les Rebelles. Le phénomène skinhead découlait de ces gens-là, quoi. Des rebelles, des Hells Angels. Et donc nous, on a été la génération contre les skinheads. Nous, on a été la suite, on a été l'héritier des Asnais. C'était le même éthique. la même éthique. Et là, ben, après, on était rencardés sur les lieux où ils siégeaient, où ils faisaient leurs trucs, les skinheads. Et puis, on faisait en sorte d'être là au bon moment. Puis, on se rentrait dedans. C'était ça.
Imaginez des voyous, le crâne rasé, chaussé de rangers, ceux qui veulent à tout prix bouffer de l'arabe. Les auteurs sont ceux qu'on appelle les skinheads.
Skin, ça veut dire quoi exactement?
Le skin, c'est une personne qui s'habille comme il le ressent, et c'est un mouvement qui est national-socialiste et non pas un mouvement pour le nègre, ni le juif, et ni l'arabe.
À Lille, les policiers quadrillent actuellement les rues de la ville à la recherche d'une bande de skinheads qui ont agressé et tué un jeune homme de 27 ans dans un square hier soir.
Deux Guadeloupéens et deux Indonésiens sont tabassés en pleine rue samedi à 14h.
La société multiraciale est un échec parce qu'il y a des opposants à ce système.
Serge Ayoub dit Bad Skin.
C'était un bon système, il n'y aurait pas d'opposants, le mouvement skin n'existerait pas. Nous sommes contre l'immigration qui métisse notre culture.
Quitte à taper sur les immigrés.
Quitte à les taper s'il le faut pour se faire connaître et pour se faire comprendre et entendre.
Retour en France pour noter qu'après Rouen, après Le Havre, après Brest, eh bien à nouveau c'était Nice qui a été en proie ce week-end à des incidents dus aux skinheads qui sont de plus en plus fréquents dans les grandes villes de France.
La seule chose qui m'intéresse, c'est les blancs de ma pensée, de mon idéologie. Les autres, je leur pisse à l'arrêt.
Allez, on a attaqué les skinheads à Assas, on les a attaqués dans leur quartier général vers Saint-Michel et tout ça, on les a attaqués en Montparnasse, on les a attaqués à Châtelet, on les a attaqués à La Défense, on les a attaqués à Saint-Lazare, on les a attaqués un peu partout quoi, partout où ils se trouvaient, vers Bougrenelle dans le 15e, aussi en banlieue, parce qu'il y avait des groupes aussi, j'avais un cousin qui était chef des félins, des groupes à Grigny. Nous, c'était identitaire. Il y a beaucoup de groupes comme les Redskins et tout ça, c'était plus politique, idéologie politique. Nous, c'est identitaire. C'est-à-dire qu'il fallait que notre génération soit défendue par des gens de leur communauté. C'est très important, ça. Parce que pour éviter l'assistanat et donner une certaine émancipation à tous ceux qui te ressemblent, il faut que tu leur montres que tu es capable de les défendre afin qu'ils puissent plus tard se défendre eux-mêmes. Donc c'était plus ça notre idéologie des Black Dragons. Après, on est contre toute injustice. C'est-à-dire que nous, à partir du moment qu'on voit 10 personnes contre une personne, on n'est pas d'accord. On voit une personne qui abuse d'une femme, on n'est pas d'accord. Que tu sois noir ou blanc ou machin, c'est pas, peu importe. Nous, on est contre l'injustice. Un dragon, c'est ça. C'est une flamme qui brûle l'injustice. C'est ça un dragon. C'est la flamme, c'est la rage qui détruit l'injustice. C'est ça le symbolique d'un Black Dragon. Donc nous, on s'est lancé dans cette lutte-là. Et puis on a recruté toutes les banlieues, on a créé des sections partout, périphériques de Paris. Et donc toutes les entrées des banlieues pour entourer Paris. Comme ça, on pouvait canaliser et maîtriser toutes les situations. C'était un système que les Afro-Américains pratiquaient dans les ghettos. On a pratiqué la même chose ici. On a mis en pratique un truc qui existait déjà. Et puis les skins ne se cachent pas non plus. Et ils nous attendaient, ils nous provoquaient exprès pour qu'on vienne aussi à eux. Ils étaient dans la même jouissance du combat que nous. À partir du moment où tu montes sur un ring, tu sais que tu as un adversaire. L'adversaire, il est là aussi pour te combattre, toi aussi. Donc, c'est que vous avez accepté les codes du combat. Les skinheads n'étaient pas des lâches, c'était des hommes. Ils étaient dans la lutte, donc on a été en guerrier. Les skinheads, c'est des guerriers. C'est des gens, ils croient à leur truc. Moi, je respecte les guerriers. J'ai du respect pour mon ennemi. J'ai pas de respect pour les traîtres et les lâches. Il faut que ça soit clair, quoi. Il y a une limite, il ne faut pas dépasser. Parce que tu dépasses ça, c'est fini. Les skins te jettent de l'acide. Les skins sortent des armes, tirent dessus. Les skins te mettent des coups de marteau. Les skins, ils prennent des commerçants à la sauvette. Ils les défoncent des gens qui n'ont rien à voir. Donc, à partir du moment où l'ennemi, il ne respecte pas de code d'honneur en vis-à-vis des civils, quand on tombe sur un skinhead, on n'a aucune loyauté. On s'adapte. Tu me jettes de l'acide, si j'ai de l'acide, je jetterai dessus aussi. Nous sommes dans l'autodéfense. c'est nous subissons l'attaque et nous organisons la défense en conséquence, en proportion de l'attaque. Ça a été ça, parce qu'on est des gens d'honneur. Nous, on a des codes.
Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Sois des commandants au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Ceux qui sont restés passifs en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le bon parleur d'une génération révoltée, prête à tout ébranler. Même le système qui nous pousse à l'extrême. Mais NTM suprême ne lâchera pas les rênes et voler par toute la jeunesse défavorisée. Sa vérité engagée, le droit à l'égalité. Me voilà de nouveau prêt à redéclencher.
Oui,
une vulgaire guerre civile et non militaire. Y'en a marre des promesses, on va tout foutre en l'air. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Ta puissance est dans nos mains, alors écoute sur enfin.
Joe Dalton, cœur de gang, les Black Dragons. Voilà l'histoire que nous raconte ce garçon. Une histoire inconnue de la plupart d'entre vous, je suis à peu près persuadé. Et il veut absolument raconter cette histoire et faire comprendre que ces Black Dragons, qui existent toujours, qui sommeillent, mais qui sont là à tout jamais, eh bien, sont tout sauf une bande de voyous. Ils avaient une... avec leur forme d'organisation, de valeur, d'honneur, d'entraînement et de rigueur, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils avaient un positionnement, on peut dire, idéologique, peut-être insuffisamment politique, ça c'est d'autres histoires, mais qui s'inspirent bel et bien des mouvements américains des années, des Black Panthers, de Malcolm X et de ces personnages-là qui sont des références et qui ont nourri non seulement l'imaginaire, non seulement la musique, non seulement, disons, la culture, mais aussi une forme bel et bien d'engagement violent, brutal, qui est allé jusqu'à quand même des morts, des blessés, des gens escagassés. C'est très compliqué l'histoire des gangs, des bandes, ce qui est, faut bien sûr faire la différence entre les deux, autour de Paris. Voilà en tout cas le témoignage de Joe Dalton, cœur de gang. Suite.
Les Black Dragons, vous me disiez, c'était très organisé, c'est-à-dire qu'il y avait différentes sections.
Black Dragons, c'est peut-être 5, 6, 7 sections. Quand on regroupait tous les recrues et les alliés, on pouvait être 900. Après, chaque section, il y avait à peine une centaine par section. Nous, les kamikazes, moi, c'est mon groupe, c'est les kamikazes. On est une cinquantaine. Chaque section avait ses propres codes aussi. Nous, on était comme des ninjas, nous. C'est-à-dire que tu pouvais pas, même aujourd'hui, tu peux pas identifier un kamikaze comme ça. Les autres sections, ils occupaient le terrain. Ils étaient plus identifiables. Nous, on était alternatifs. On était un groupe de commando, quoi. On était en banlieue, on venait, on faisait ce qu'on a à faire. Après, on disparaissait, chacun repartait dans son train-train. Ni vu, ni connu. Nous, les kamikazes, on a fait l'épreuve de sang aussi.
L'épreuve du sang?
Ouais.
C'était quoi, ça, l'épreuve du sang?
On voit comme les Genghis Khan, tu connais Genghis Khan? Où ils se coupent et puis ils mélangent le sang. Et puis voilà, nous, on a fait ces trucs-là. On a été loin dans le délire. C'est comme ça qu'il fallait rentrer dans les kamikazes. Et les kamikazes, c'était vraiment les commandos des Black Dragons. Il y avait les légionnaires aussi des Black Dragons. C'était les frégates. Eux, ils avaient d'autres codes. C'est-à-dire que eux, comme c'est eux qui siégeaient, qui tenaient le bastion, je pense qu'eux, ils ont eu beaucoup de dommages collatéraux à cause de nos descentes. Parce qu'eux, il fallait qu'ils tiennent le siège. Et donc, tous les retours des combats qui se faisaient à l'extérieur, eux, ils subissaient les retours, les vendettas. Eux, leur code, c'était comme les légionnaires. Il fallait tenir à l'alcool, ne pas trahir, même si tu as bu, même si on t'a passé à tabac. Donc, c'était plus dur. C'est les légionnaires, les frégates. Donc, les frégates, c'était eux vraiment qui siégeaient à la défense. Pour moi... Dans les Black Dragons, il n'y a eu que deux groupes actifs. Les frégates et les kamikazes. Les sacrifiés et les nettoyeurs.
Les légionnaires, c'était les sacrifiés, vous, vous étiez les nettoyeurs.
Pour qu'il y ait des vendettas contre nous, c'était difficile. Parce qu'on se repliait. Eux, ils tenaient le bastion. Donc pour moi, eux, c'était des sacrifiés. Nous, notre sacrifice, c'était kamikaze. On n'était pas à mourir pour les nôtres.
Vous n'aviez pas des couleurs ou des insignes?
Des couleurs. Le jour des combats, on avait des couleurs. On avait des bombers noirs, jeans 501 ou pantalon militaire. Et quand on partait en combat, on avait des Doc Martens ou des bottes allemandes. Ferré devant, ferré derrière. On mettait des éperons aussi.
À l'arrière des chaussures?
Ouais, parce qu'on était des spécialistes de coups de pied. On avait une coupe spéciale aussi. On avait une coupe, on appelait ça la houppette, la banane. C'est-à-dire qu'il y avait plus de cheveux ici avec des traits. Des traits sur le côté. On faisait des traits. Les traits, c'était les traits de fier d'être noir. On avait des bagues de combat aussi. Des bagues cloutées. Après, il y a eu des lois. Suite à des règlements de compte dans les gangs, ben, il y a eu des lois qui sont passées. Donc, du coup, du point américain, on a eu les mousquetons. Sinon, on était bien armés. On avait tout ce qu'il fallait, quoi.
Des armes genre batte de baseball, des choses comme ça, ou des...
L'arme de pointe aussi. Parce que quand on commençait à lire dans les journaux que on retrouvait des membres de Black Dragon morts et tout ça, et qu'on se retrouvait dans des combats des fois où les skinheads nous tiraient dessus, eh ben on a fait ce qu'il fallait pour être armé comme il faut. Je pense que si on était à l'époque d'aujourd'hui, il y a beaucoup de skinheads, je pense qu'ils auraient été en prison pour homicide volontaire. Il y a beaucoup eu de morts d'étrangers ou de même des gens anodins, lambda, qui étaient contre les skinheads, qui n'ont jamais été élucidés. Puisque il n'y avait pas la police scientifique, il y avait tout ça. Les dossiers étaient vite fait classés. C'est pour ça que c'est important que les jeunes ils sachent ça, quoi. Parce qu'ils pensent vivre dans un monde de violence. C'est, aujourd'hui, la violence, elle est gratuite. Nous, c'était une cause pour que les nôtres se sentent bien dans ce pays. Si on était fiers de combattre cette idéologie skinhead, Ku Klux Klan, naziste, fasciste, nous on était fiers, on avait l'impression de revivre les tirailleurs et tout ça. C'était une fierté. Surtout que moi, dans ma famille, il y a eu des tirailleurs. Pour moi, ça a été une fuite, tout ça. On est fiers d'avoir subi tout ça et rester debout. Et puis on a des séquelles. J'ai une hanche qui va mal, j'ai les douleurs, je porte les douleurs du passé.
C'est pour ça que vous boitez un petit peu.
Je bois, toi. J'étais athlète de haut niveau. J'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai fait 4 championnats du monde taekwondo. J'ai fait championnat du monde pour la France, coupe du monde pour la France. Après, j'ai fait coupe du monde pour la Centrafrique, championnat du monde pour la Centrafrique. Ça fait 28 ans que je pratique le taekwondo. J'ai fait plus de 15 ans de haut niveau. En même temps que j'étais dans la rue. Une fois, j'ai eu un plâtre. Parce que je suis tombé des étages, parce qu'il y a eu une violence. J'ai sauté par la fenêtre, je suis tombé, j'ai eu un plâtre. Même pas 2 mois après, j'avais le championnat de France, j'ai enlevé le plâtre, j'ai été faire mon championnat de France. C'est comme ça. J'ai vécu pleinement, entièrement, ce que j'avais à vivre, moi. J'ai créé mon monde.
Claude Alphon s'en est sorti. Indéniablement, il s'en est sorti. C'est pas le cas de tous ses copains ou de ses ennemis dans ces gangs parisiens, de la périphérie parisienne. Ces gangs existent toujours, mais d'une autre façon, peut-être pas avec une telle intensité aujourd'hui. Pas mal de gars, d'abord le temps passe. Certains, comme il le suggère là, se sont fait esquinter. Certains sont tombés dans la daube. D'autres sont en prison pour pas mal de temps. Ça n'a pas été un succès pour tout le monde. Mais lui, il s'en est sorti. Et il a sa célébrité. Il est connu dans le coin.
Bonjour, que tu vas, ça va?
C'est pourquoi grâce à lui qu'on est là. C'est grâce à lui là. Tu sais pas que c'est grâce à lui qu'on est là.
Je vous connais pas.
Ouais, ils se connaissent pas les petits.
Les Black Dragon. Tu connais pas? C'est pas possible.
Voilà, Joe Dalton fait une photo avec quelqu'un qu'il a reconnu dans la rue. On est toujours au parvis de la Défense, à la sortie du métro. Le jeune homme était accompagné d'une dame. qui, elle, connaissait pas les Black Dragons. Ils sont en train de faire des photos.
Et à la lumière de Calais, on peut se couper. Merci.
Les Black Dragons. Je m'attendais pas à voir Joe Dalton comme ça à la défense. Un grand frère qui nous a sauvés quand même. C'est grâce à lui qu'on peut se balader normal à la défense sans être frappé par des skinheads. Waouh! Non, en tout cas, grand frère, c'est un plaisir.
De même, bonne continuation.
Merci.
Au revoir. Les gens vous reconnaissent dans la rue?
Ouais, j'ai beaucoup de reconnaissance. Parce que y a une génération qui cherche à savoir qui ils sont, qui manque un peu de repères. Puis les grands frères dans leur quartier, tout ça, leur donnent des informations sur l'histoire. Et donc j'ai beaucoup de reconnaissance, j'ai rien à dire.
Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, ils peuvent se balader dans les rues sans être attaqués grâce aux Black Dragons.
Il y a des endroits en Europe où tu peux pas le faire. Tu peux pas en Italie faire ce que tu veux, tu peux pas en Russie faire ce que tu veux. Ils vivent enclavés, les populations, dans ces zones-là. En France, il y a des zones comme à Lyon, c'est pas évident, tu peux pas le faire. Donc je comprends pourquoi le petit il est aussi heureux et enthousiaste de voir un ancien, surtout qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont pété les plombs et qui n'ont pas réussi à se recycler ou à se remettre dans les rails à cause des difficultés ou le parcours, la prison et les dossiers. Donc c'est pas évident, c'est pas évident tout ça.
À partir de la fin des années 80, des skinheads vraiment...
Ils ont commencé à disparaître.
Ils sont investis en politique, mais ils ont quitté la rue en tout cas.
Exactement. Et ben nous, on n'a pas eu d'autre issue qu'avec la rue pour nous. En plus, d'autant plus qu'on était fichés. Donc, toutes les banlieues sont formées en gang. Et puis, on commençait à marcher sur Paris. Donc, de combat contre les skinheads, ça s'est orienté au combat de rue, guérilla urbaine, guerre de gang. Il y a des filles qui fréquentaient les Black Dragons qui se sont fait violer par les autres bandes.
Donc, en mesure de représailles, des choses comme ça.
En mesure de représailles, nous, on a été en découdre avec eux. C'est un engrenage. Quand tu fais des représailles et que tu fais des dégâts de l'autre côté, il faut s'attendre encore à... Donc après, ça, c'était fini. On était dans cet engrenage-là. Il y a eu des gens qui se sont fait jeter sur les rails, qui se sont retrouvés chaises roulantes. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et c'est ce qui a fait après les phénomènes aussi... qui a encore accentué, parce que ça a toujours existé, les phénomènes de cité contre cité, ça accentue après les problèmes de cité, parce qu'il y a eu le business aussi, le business de la rue, le business parallèle aussi qui était dedans, l'appât du gain, fallait qu'on subsiste. Comme tu dis, les skinheads n'ont pas eu trop de mal, parce qu'ils avaient des appuis politiques. Nous, les gens de couleur, on n'avait pas tout ça, donc il fallait survivre, et ben... Un peu, c'est exactement un peu la même histoire qu'aux États-Unis. C'est pareil, hein, ça part d'une idéologie Black Panther, c'est après prison, manque de moyens et tout ça pour survivre. Et hop, les mecs, ils sont mis à faire le business parallèle. Moi, personnellement, je reste dans les codes du dragon. Je n'ai jamais été dans le business parallèle parce que c'est ma nature. Mais je ne juge pas parce que je pense que c'est la survie, c'est les conditions de survie. Il n'y a pas d'autre issue des fois que l'arme à droite et les affaires à gauche.
Qui a créé les bidonvilles et les ghettos dans lesquels vous vivez?
Malcolm X, leader de Black Panthers.
La liberté ne s'obtient et ne se préserve pas pacifiquement.
ORTF, 4 octobre 1963.
Quiconque prive d'autres de leur liberté ne mérite pas que ceux qui l'oppriment l'approchent pacifiquement. Lorsque le noir dans ce pays parvient à se libérer du carcan mental dans lequel l'ont placé nos pasteurs, il s'aperçoit que la seule façon d'obtenir sa liberté est celle que nos blancs ont employée contre les Anglais. Il faut être prêt à payer le prix de la liberté. Nos noirs n'ont jamais été prêts à se battre pour la liberté des blancs, pour que les blancs soient libres de nous envoyer des chiens policiers, de nous taper sur le crâne et d'employer des lances à incendie contre les femmes et les enfants. Pour avoir la paix, un seul moyen. Il faut éliminer ces injustices. Mais le blanc ne le fera pas. Il nous enverra de l'eau bénite et continuera ses méfaits.
La télé, la médiatisation des nouveaux riches via la culture, tout ce qui est identitaire, l'exemplarité, qu'on présente aux jeunes, c'est que des films de gang. Puis les gamins, ils grandissent dans cette géométrie-là. Et qu'est-ce qui se passe quand ils grandissent dans cette géométrie? Ils reproduisent exactement ce qu'ils voient à la télé. Donc, c'était ça. Même nous-mêmes, on a été influencés par une culture engagée, qui était le hip-hop, qui était Public Enemy, qui était les paroles de Malcolm X, des Black Panthers. C'était notre époque. Maintenant, l'époque qui a suivi après de nouvelles générations de Black Dragon Junior qui venaient après, c'était Menace to Society, des films comme ça, Boys in the Hood, c'est l'apologie de la violence. Et la cause même aujourd'hui des 68 heures en France et des autres qui ont fait la révolution en France, elle est loin. Elle est loin, cette cause aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de cause, il n'y a rien. Les gens, ils vivent sans repère. Le seul repère, c'est l'argent. Donc même nous, aujourd'hui, les enfants, ils nous écoutent pas parce que les gamins, ils se font plus de fric dans la rue. Et quel est ton discours face à un mec qui roule dans une grosse voiture, qui pèse, qui peut même subvenir à tes besoins si c'est nécessaire? Qu'est-ce qu'on peut dire à un gamin qui se font plus de fric que ses parents, qui se lève tous les matins et qui travaille et qui n'a même pas de couverture sociale à la fin? Le gamin, il peut subvenir aux besoins de sa famille ici, de sa famille au village, grâce à la business parallèle. Face à une politique où on voit que c'est vraiment pas l'exemple même, et on entend des détournements de millions, de machins, et les gens, ils sont là en toute impunité, tu vas dire quoi? Donc, ça a été que l'évolution de la société. Hein. Aujourd'hui, les générations ont compris qu'on vit dans un monde de business. Tu touches à leur business, ils t'allument. Pop-up ! Direct. L'ennemi du jeune du quartier aujourd'hui, c'est celui qui vient se prendre à son business, c'est le flic qui va venir l'embêter. Donc le flic ne rentre pas au quartier comme ça, il reçoit des trucs de fou. Parce que c'est son intérêt. C'est son pays, c'est son pétrole. C'est son diamant, c'est son uranium. C'est son business. D'accord ? Donc il fait comme les 1% qui tiennent le monde. Les petits gars du quartier, ils disent, ben moi aujourd'hui, c'est moi qui vais être Bouygues, c'est moi qui vais être ceci. Ils respectent les anciens parce que pour eux le travail a été fait. Et aujourd'hui, il peut faire ce qu'il a à faire. Mes petits, tu ne peux plus les mettre à l'amende. Tu lui fais du mal, il revient et il sort un Kalachnikov. Il a déjà génétiquement cette liberté-là dans sa tête. Même un petit gars de quartier qui n'a rien à voir, qui est étudiant, le ski ne va pas aller l'embêter longtemps. Il a la solution radicale. Mais c'est pas pour autant que la société d'aujourd'hui, en France, elle est plus violente que notre génération. C'est pas vrai. Je pense que les années 80, au début des années 90, la rue parisienne a été la plus violente qui soit. Les jeunes aujourd'hui, bon, c'est des crimes. C'est des crimes une fois de temps en temps, comme ça. Nous, on était des jeunes révoltés. On avait une violence interne. On avait une frustration du passé qui faisait qu'on était prêt à tout foutre en l'air. Moi, mon combat, mon niveau, il continue parce que je suis éducateur sportif, je suis maître des arts martiaux. Donc, si j'arrive à transmettre mon savoir et un esprit avec des codes d'honneur à des générations, j'ai largement fait mon combat. Parce que c'est mes outils, ça.
Be peaceful. Be courteous. Obey the law. Respect everyone. But if someone puts his hand on you, send him to the cemetery.
Joe Dalton, cœur de gang, merci. C'était un reportage de Charlotte Perry, la Madone des gangs. Le livre de Jérémy Maradas Nato et Christina Lhomme, Joe Dalton, cœur de gang. C'est chez la Manufacture des livres. Et puis, il y a le bouquin de Kizo et Yann Morvan, formidable photographe, qui s'appelle Gang Story, à la Manufacture des livres. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Et vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Élodie Royer et Alain Gadan. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend Vos messages sur le répondeur de la Basse IGSU au 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui, la violence, elle est gratuite. Nous, c'était une cause pour que les nôtres se sentent bien dans ce pays. Si on était fiers de combattre cette idéologie skinhead, Ku Klux Klan, naziste, fasciste. Nous, on était fiers, on avait l'impression de revivre les tirailleurs et tout ça. C'était une fierté.
On se retrouve lundi à 15h pour la Basse IGSU. On part en Pologne lundi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et je vous laisse avec Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bienvenue à cette soirée, nos grandes écoles buissonnières. Merci d'être venu. Je suis Olivier Morel.
Je suis Maëva Tordeau.
Nous faisons partie du petit équipage de ces 30 co-auteurs qui avons le plaisir ce soir de lancer notre premier livre, Nos grandes écoles buissonnières. Tout a commencé en fait le 8 mai 2013 où j'ai envoyé un mail à des amis en leur disant « Est-ce que ça vous dirait ?» Est-ce que ça vous dirait en fait de partager votre expérience ? Vous avez fait des grandes écoles comme moi, vous avez décidé à un moment de sortir des sentiers battus et d'aller vers le développement durable ou l'innovation sociale.
Bonjour à tous et bienvenue à l'ESCP, École supérieure de commerce de Paris, Europe, où se déroule un événement autour de nos grandes écoles buissonnières, un livre collectif qu'a lancé Olivier Morel et qu'on peut se procurer sur Internet gratuitement, ou qu'on peut acheter aussi 15 euros. Oui, venez, venez.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites ?
Je prépare l'événement de Grandes Écoles Buissonnières. Comment allez-vous?
Mais très bien. Et alors, comment on prépare nos grandes écoles buissonnières?
Écoutez, une carte bleue, un micro, des affiches, du scotch, plein d'étudiants hyper motivés pour partager ce grand moment.
Et vous faites quoi concrètement? Vous êtes étudiant dans l'école?
J'étais étudiante dans l'école, mais aujourd'hui je développe tout ce qui est entrepreneuriat et innovation sociale dans l'école, et notamment l'incubateur Blue Factory, qui accompagne les étudiants et alumni de l'école à créer des entreprises qui font du sens et qui améliorent la société.
Ah donc vous êtes salarié dans l'école?
Voilà, j'ai créé un nouveau métier dans cette école, je suis intrapreneur.
Intrapreneur?
C'est ça. C'est très nouveau et c'est pour ça qu'on a créé le NOISE dans cette école. Le NOISE, c'est le nouvel observatoire de l'innovation sociale et environnementale. Et c'est une asso qu'on a créée il y a 2 ans et qui permet d'accueillir justement cet événement pour permettre aux étudiants de découvrir justement tous ces nouveaux modèles alternatifs de business, de management.
Vous vous conseillez aux jeunes qui ont 15-16 ans de faire des écoles de commerce encore, ou vous leur dites non, allez faire votre expérience en dehors des chemins?
C'est une belle question. Trouverait-il que je me suis donné pour projet de transformer ces écoles pour que justement les étudiants qui arrivent dans ces écoles-là ne soient pas déçus et ils trouvent une vraie possibilité de s'épanouir.
Tu connais Hervé Pochon? À Kara, que j'ai rencontré en Afghanistan.
Et qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan?
Je faisais des missions en fait et je suis devenu un expert du poulet et du raisin sec afghan.
Ah oui?
Comme quoi les grandes écoles, ça mène à tout.
Vous avez fait quoi comme grande école?
Je fais Polytechnique. Et ensuite, j'étais plutôt informaticien à la base, mais oui, comme quoi l'informatique aussi, ça peut mener au poulet et au raisin sec. Hein.
Et aujourd'hui, vous faites quoi?
Alors aujourd'hui, je bosse dans une très grosse association. Donc, j'ai commencé mon boulot il y a un mois. C'est une association qui s'appelle Aurore, qui est une très grosse association principalement de logements d'urgence et de logements sociaux, qui a développé ensuite d'autres métiers justement pour accompagner les publics qu'ils hébergeaient. C'est bien, c'est avoir un toit, un endroit où dormir, c'est déjà pas mal. Ensuite, ils ont pas mal développé le métier d'accompagnement, de traitement des addictions. Et ensuite, il y a un troisième métier qui est inséré. Une fois qu'on est soigné, une fois qu'on a un toit, autant essayer de s'insérer dans la société. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une très très grosse structure et qui n'a rien à envier à celle des grands groupes dans lesquels j'ai travaillé avant. Donc, on utilise exactement les mêmes compétences que dans le secteur privé, mais avec des indicateurs, avec des finalités un petit peu différentes. C'est ça qui est passionnant.
Mais vous êtes le seul à avoir fait Polytechnique et à bosser là-dedans, j'imagine.
Non, on est plus qu'on croit, mais certainement pas assez. Mais il y en a de plus en plus. Ouais.
En quoi ce que vous avez appris vous aide aujourd'hui ou vous regrettez que la formation que vous avez reçue vous a pas ouvert les horizons que vous auriez aimé qu'on vous ouvre?
Moi, je pense que pour moi, ça a d'abord été une erreur d'orientation, plutôt un manque d'orientation. Donc voilà, c'est le cas des grandes écoles.
Vous avez fait Polytechnique
On est bon au lycée, on est bon en maths. Donc là, on se dit soit faut dire plutôt excellent, parce que voilà, j'étais carrément au-dessus de l'eau. Puis là, on fait soit maths sup, soit prépa HEC. Et puis ensuite, on se retrouve en école d'ingénieur. Puis là, finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas envie forcément de faire des sciences toute notre vie.
Si c'était à refaire, vous feriez quoi, vous?
Bah, si c'était à refaire, j'aurais demandé à rencontrer plus de gens avant de m'orienter à la fin du lycée. Essayer de savoir quels étaient les métiers, essayer surtout de rencontrer des gens passionnés, puisque lorsqu'on a la chance d'être bon dans les études en France, bah, c'est vrai qu'on a énormément de choix au niveau de l'orientation. Et lorsqu'on a le choix, autant faire quelque chose qui nous plaît. Mais pour ça, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment et ouvrir les horizons.
Et votre prénom, c'est ?
Akara.
Akara, et vous êtes de quelle origine ?
Breton.
Breton, Akara.
Oui. Très fier de l'être.
Ça veut dire quelque chose?
Non, en fait, Akara, c'est cambodgien. Voilà.
Mais vous êtes né en Bretagne?
J'ai grandi en Bretagne. Je suis né, j'ai grandi en France. J'ai des parents qui sont réfugiés politiques, qui ont eu de la chance. Ils sont arrivés en France avant qu'éclate. Ils étaient en programme.
Les 70 alors?
Oui, voilà, ils étaient en programme d'échange. Ils faisaient leurs études ici. Et puis quand la guerre a éclaté, ils se sont dit qu'ils allaient rester ici et pas retourner là-bas. Moi, je suis né, j'ai grandi ici. Ouais. Et voilà, pur produit du système français. Très fier de ce que l'école de la République peut apporter. Et j'ai beaucoup travaillé dans la solidarité internationale, mais c'est aussi parce que je suis très attaché à certaines valeurs de la France que j'ai décidé de bosser ici. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Un temps de pochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Tu en as de belles lunettes?
C'est pour mieux te voir, mon garçon.
Tu en as de belles dents?
C'est pour avoir un beau sourire, mon garçon.
Et c'est Matmut Santé, tout ça?
C'est Matmut Santé.
Elle a du mérite, la Matmut, avec toi. Il y avait du boulot.
Mais quel jaloux!
Selon conditions définies au contrat d'assurance Matmut Santé et Matmut Santé Essentiel.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Aurélie Bambuc.
La première grève du football français depuis 40 ans. Le dernier week-end de novembre, il n'y aura ni match de Ligue 1 ni match de Ligue 2. Les présidents des clubs professionnels ont décidé unanimement aujourd'hui de déserter les stades pour s'opposer à la taxe à 75% sur les revenus dépassant 1 million d'euros par an. Pour le syndicat des clubs professionnels, cette taxe est un drame pour des clubs déjà déficitaires. Ils réclament au pouvoir public son abandon, mais Matignon a réaffirmé aujourd'hui que les clubs de football étaient traités comme les autres entreprises au regard de cette taxe. La France lance une opération conjointe de grande ampleur au Mali. Les soldats français, maliens et la force de l'ONU au Mali veulent éviter une résurgence de mouvements terroristes. L'opération baptisée Hydre est en cours au nord et au sud de la boucle du Niger. Ce genre d'opération est souvent menée pour participer à la stabilité du pays. Les salariés licenciés de l'abattoir GAD de Lampol-Guimilio vont prendre le temps d'étudier la proposition de doublement de leur prime de licenciement. Réunis cet après-midi devant leur site, promis à la fermeture, les 600 salariés ont décidé de ne pas voter dès aujourd'hui. Ils attendent la vérification de ce projet d'accord par leurs avocats. Ediard, placé en redressement judiciaire pour 4 mois à l'épicerie de luxe devant le tribunal de commerce de Paris aujourd'hui pour trouver un repreneur. Un administrateur judiciaire a été nommé pour trouver un successeur à l'actionnaire russe, le milliardaire Sergueï Pougatchev. La signature d'un accord de compétitivité entre direction et syndicat de PSA Peugeot Citroën. Une signature qui garantit le maintien des sites en France d'ici 2016. En échange, les salariés sont appelés à la modération salariale. Le texte de l'accord prévoit notamment le gel des augmentations générales l'année prochaine. Le Conseil européen dominé par les révélations de l'espionnage intensif américain. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis depuis aujourd'hui à Bruxelles. Un sommet sous le choc du scandale provoqué par la surveillance massive des Américains en Europe. La France l'a découvert en début de semaine. L'Allemagne l'a révélé hier soir. Le portable de la chancelière Angela Merkel soupçonné d'être sur écoute. Certains États européens comme la France veulent profiter de cette réunion à Bruxelles pour faire avancer la proposition de la Commission européenne concernant la protection des données des citoyens. Les parents de Maddy se félicitent de la réouverture de l'enquête sur la disparition de leur fille au Portugal. La justice portugaise a décidé de rouvrir le dossier grâce à des nouveaux éléments trouvés par la police. Maddy a disparu le 3 mai 2007 dans une station balnéaire portugaise où elle séjournait avec sa famille. Avec cette réouverture, les parents espèrent la retrouver et découvrir le responsable de son enlèvement.
Ce soir sur France Inter, Laura Leishman Project spécial avec Geisa Forstein. Une heure d'interview pour présenter son nouvel album Aleph, la plus grande sortie techno de l'année. Suivi d'un DJ set exclusif en direct de nos studios. LLP spécial Geisa Forstein, c'est ce soir à partir de 22h.
France Inter,
la voix est libre.
16h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Frédéric Lodéon.
Merci Aurélie Bambuc, on vous retrouve à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour, bonjour. Un peu d'énergie pour commencer avec le final, le rondo à la hongroise du concerto en ré majeur de Joseph Haydn. Donc, inspiration soi-disant hongroise, mais enfin plus précisément tzigane en général. Ce sont les tziganes hongrois qui se transportaient dans les régions et qu'on entendait et quelquefois on était tenté évidemment de les imiter parce que leur vitalité paraissait tout à fait évidente et remarquable aux oreilles des compositeurs, fussent-ils les plus classiques comme Joseph Haydn. Et ben voilà, il a reçu une belle émulation. Voici ce rondo du concerto en ré, ré majeur, c'est toujours la tonalité joyeuse, forte, quelquefois guerrière, enfin c'est plutôt lumineux que triste, mais il y a quand même un passage en mineur bien sûr, sinon le contraste n'y serait pas. Thank you. à la hongroise du concerto pour piano en ré majeur de Joseph Haydn par Oliver Schneider au piano avec l'Académie Saint-Martin in the Fields, orchestre anglais. Et nous voilà partis pour l'Espagne maintenant avec une étude de Fernando Sor.